Début de la deuxième partie de l'émission Polyplaisir des Utopies, j'invite les gens à passer au troisième millénaire, y compris dans leur vie privée. Nous retrouvons Clémentine et son compagnon pour la dernière partie de cette émission.
Et donc ton compagnon qui est là, Clémentine, comment tu as rencontré, en quelques mots, l'idée polyamoureuse? Est-ce que tu t'es inscrit directement avec le contact de Clémentine? Tu vivais avant,
Donc je ne vivais pas du tout avant de rencontrer Clémentine, j'étais célibataire. Donc j'ai rencontré avec son compagnon à l'époque, c'était pendant les vacances, donc c'était vraiment... j'ai rencontré un couple de personnes avec qui je me suis bien entendu, on a échangé d'adresse email, on s'est revus après ici sur Bruxelles, sans savoir qu'ils étaient polyamori.
C'est ça.
Et donc c'est a posteriori que j'ai appris qu'ils étaient polyamori, qu'on a commencé peut-être encore plus tard une relation, et donc c'est par elle que j'ai découvert le polyamori, et que j'ai découvert aussi peut-être une certaine forme de liberté dans la relation que ça apporte. On peut rester dans la séduction, ça apporte quand même pas mal de choses, en plus d'une relation classique où on s'enferme, on reste avec la même personne. Je connais pas mal de couples d'amis qui, dès qu'ils ont entamé une relation, on les voit quasi plus. Là, on reste quand même dans le... on a du temps libre, il y a quand même plusieurs relations en même temps, donc ça laisse un certain temps. Donc ça donne une qualité de relation qui est peut-être, je trouve, supérieure à ce que j'avais pu vivre avant dans des relations plus monogames.
Et tu es rentré d'emblée comme ça, un grand pas en avant, ou alors ça fait progressivement, ou tu t'es questionné, ça a demandé du dialogue?
On a commencé une relation qui était tracée... basée en grande partie sur la sexualité au départ, et la relation s'est construite petit à petit, donc j'y suis rentré finalement petit à petit, et donc il y a eu un questionnement sur soi-même en début de relation: est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que ça m'apporte quelque chose en plus, est-ce que ça peut mener quelque part? Et petit à petit, en discutant, en y réfléchissant, en discutant avec forcément Clémentine, mais aussi avec des amis qui sont pas du tout non plus polyamori, on peut construire une sorte de carte de où on veut aller, de ce que ça peut apporter, et on se rend compte que le polyamorie quand même a ses avantages intéressant. Je veux dire, on a une qualité de relation qui est peut-être un peu supérieure à ce que j'ai pu vivre avant, donc voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter.
Oui, un petit personnage mythique, en fait, excuse-moi de te couper, qui m'impressionne beaucoup, et j'y pensais tout à coup quand tu en parlais. Eh bien, c'est bien sûr Lilith, la grande Lilith que j'ai découvert il y a quelques années. Est-ce qu'on peut imaginer que... Tu vois un peu qui c'est?
Je vois pas du tout qui c'est, donc...
Non. Donc, Adam et Ève, on sait un peu leur vie, mais Lilith aurait été avant Ève, la vraie femme destinée à Adam, qui, quelque part, l'a déçue parce qu'elle était assez autonome et qu'elle ne sortait pas de sa côte. Enfin, Adam déçue après, a fabriqué une femme à son image, donc c'est une fausse femme, puisqu'elle est sortie de son corps. Et qu'en plus, après, y a tout le poids du péché qui a fait que c'était bien plus facile de la rendre docile. Donc, Ève, c'est la femme au foyer, un peu en gros. Et Lilith, c'est celle qui apparaît dans les rêves les plus fous d'Adam, dans sa transpiration au milieu de la nuit et dans ses désirs les plus fous. Et c'est elle qui se serait un peu réincarnée en serpent aussi. Mais donc, dans la religion catholique, tu as la Vierge Noire, qui est une Vierge qui apparaît à un moment donné, qui pourrait être une trace... un peu de cette Lilith originelle qui est quand même fort masquée dans l'histoire de la religion catholique, mais qui apparaît dans d'autres textes. Voilà. Mais moi je fais un lien un peu évident entre...
Probablement qu'il y a peut-être... Les femmes polyamorées sont peut-être plus libérées qu'une femme qui est vraiment dans une relation dans le modèle patriarcal qui a été intégré peut-être dans toute l'éducation, et donc le fait d'aller chercher plusieurs partenaires, d'avoir des relations différentes, à mon avis, induit que les femmes sont plus libérées, sont peut-être dans le 21e siècle, et donc se rapprochent peut-être plus de Lilith que d'Ève.
C'est ça. Et donc il y a aussi un autre livre de Jean Marcal qui s'appelle La femme celte, que j'ai pu lire, et bientôt il y aura des articles sur le site. C'est aussi un ancrage dans qu'est-ce qui a pu être la base, la fondation de nos sociétés. Il y a 2000 ans, il s'est passé un virage à 180 degrés, on a brûlé les femmes, on leur a fait avouer un tas de choses. Simplement parce qu'elles étaient dans une autonomie, une autonomie de création, et que les curés dans les villages voulaient le pouvoir, puisque quelqu'un qui vit seul, qui est une femme, et qui en plus fait l'amour en chevauchant les hommes, c'est pas très convenable. Donc on va questionner avec tout ce qu'on sait comme stratégie moyenâgeuse. Quand on faisait couler une sorcière, si elle coulait, c'est que c'était une vraie sorcière. Donc elle a un bienfait de... Hein. Et si elle remontait à la surface, ça voulait dire qu'elle avait menti. Et donc il fallait quand même la torturer. Enfin bon, c'est des trucs hein, assez fous. Et donc moi je suis fâché aussi par rapport à ces découvertes et au fait que dans nos livres d'histoire, ben, en fin de compte... Tout ça n'apparaît pas. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que je conseille vraiment ce bouquin extraordinaire de la femme celte. C'est énorme. C'est toi qui connais peut-être Jean Mascal et l'ancrage historique. Tu as un tas de contes et de croyances qui sont passés dans le monde chrétien, qui venaient de la Gaule, des Celtes, et qui ont pris tout à fait un virage dans ce que ça pouvait véhiculer en termes de symbolique aussi. Une femme qui vivait telle chose dans un château, tout d'un coup devenait la méchante, dans l'autre conte qui est partie dans l'ancrage religieux. Et donc là, je pense qu'il y a un devoir de mémoire à faire aussi. Tu es d'accord avec moi ?
Oui, au niveau de ce qu'on a appelé le génocide des sorcières, qu'on se situe au Moyen-Âge, entre les années 1000 à 1500, au moment de toute l'Inquisition. Pour rebondir au niveau des contes, il y a Clarissa Pinkola Estée qui a sorti il y a déjà maintenant 15 ans au moins un bouquin qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » et qui est en fait une réécriture qu'elle a fait des contes. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher ce qu'elle appelait des versions originelles et qui ne tiennent pas compte justement de la misogynie et de la gynophobie grandissante qui ont systématiquement donné aux femmes dans les contes le rôle au choix de la stupide, de l'esclave ou de la méchante. Et ça donne lieu à des revisitations, notamment le conte du petit chaperon rouge, qui avait été de façon fameuse résumé comme une mère sadique envoie sa fille se faire manger par un loup. La fille est déjà moins innocente de ce qui se trame quand elle est en face du loup. Et puis, à la fin... Elle réussit à s'échapper en demandant à aller aux toilettes. Mmh. Et le loup lui met un fil qu'elle accroche à la rampe de l'escalier. Et elle court. Elle arrive à une rivière où il y a des lavandières qui sont occupées avec le linge à laver, qui lui lance un drap sur lequel elle peut marcher pour gagner l'autre rive. Et qui, comme elle est nue, l'habille de ses vêtements de femme. Donc il y a effectivement quelque chose sur le rite de passage. Et la période 15-25 ans, statistiquement, est vraiment une période à risque pour les femmes, au niveau des agressions sexuelles et justement des hommes autour. Et quand le loup arrive derrière, les lavandières lui lancent complaisamment le drap, mais une fois qu'il est dessus, elle le lâche et il se noie. Donc là, je trouvais qu'au lieu d'avoir la fin par les chasseurs qui découpent le ventre du loup et qui les ressortent, il y avait quand même quelque chose à dire sur aussi une vigilance des femmes entre elles, une solidarité des femmes entre elles pour se porter secours quand il y a besoin. C'est sur aussi, finalement, à un moment donné, où on peut, en tant qu'adolescente, ou sans doute adolescent, être dans la prise de risque, se laisser aller peut-être un peu à la séduction, et qu'on n'est pas finalement en capacité d'assumer face à un adulte qui, lui, est beaucoup plus autoritaire dans l'exercice de son désir. Mmh.
on a une relation finalement monogame, on arrête la séduction au moment où on commence une relation, je veux dire, on est... ou alors on est dans la tromperie, bon, c'est...
Ouais.
Bon, c'est l'un ou l'autre. Mais
ouais,
on...
c'est ça.
Si on veut rester honnête avec soi-même, je veux dire, on arrête le point de la séduction, et là, dans une relation polyamoureuse, on peut quand même développer une relation amoureuse complète, tout en restant peut-être dans la séduction derrière, donc tout en, en gardant aussi ce plaisir-là de pouvoir rencontrer d'autres gens et ne pas, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, une fille qui peut être intéressante, qui peut vous plaire, de se dire, mais non, j'arrête là, on arrête de discuter, on, pour pas aller plus loin et pour pas justement passer dans la tromperie avec la, la partenaire qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Donc c'est peut-être ça la, la chose qu'on a en plus dans une relation polyamorie.
C'est ça. Donc toi, tu es aussi dans cette ouverture-là de ton côté,
oui.
En étant dans, la, dans une liberté que tu gardes, que tu connaissais sans doute qu'en tant que célibataire,
oui, bah ouais.
Mais que tu gardes.
Voilà, exactement. En fait. Donc on garde une certaine liberté, sauf bon, forcément quand on se voit, bon, on est dans une relation donc, en couple, quand on est dehors, bon, forcément ça, ça change des choses, mais tout le temps qui est passé loin l'un de l'autre reste finalement un peu comme si on était célibataire.
Et qu'est-ce que tu penses un peu de l'argument des couples plus ancrés dans la monogamie qui font un petit peu référence à un certain manque de maturité éventuelle quand on a un petit peu ces accusations que moi j'ai déjà eues parce que je suis aussi dans, dans le polyamour, qu'on n'arrive pas à choisir un peu comme un vieil ado qui veut tout. Est-ce que tu as déjà un peu eu ce, ce genre
j'ai
de...
J'ai pas eu de retour comme ça. Bon, non, c'est assez récent, ça fait, c'est ça. Ça fait quoi, 7-8 mois, donc... Bah,
moi, on m'a posé cette question-là dans l'émission à l'RTBF. Et donc, je dis, mais oui, je crois que c'est bien de rester ado aussi. Dans l'idée que être adulte, est-ce que c'est ça? Est-ce que être adulte, ça veut dire sacrifier un choix pour un autre avec des frustrations qui accompagnent? Et moi, j'ai un peu l'impression que quand j'observe la jeunesse aujourd'hui, il y a une énergie fabuleuse en eux. Parce que peut-être que c'est la tranche d'âge où la société est dans une certaine permissivité. On se dit, ouais, bon, ben, c'est leur premier amour, ils essayent un peu. Il y a une copine qui passe chez le copain, qui amène l'autre copine, donc ils ont des relations croisées entre eux un petit peu. Mais quelle énergie, quoi. C'est Paul Salomon qui le dit aussi dans des livres. Donc, on parle de sexe que d'esprit, hein, ce qu'il disait tout à l'heure. Mais donc, cette sexualité qui est peut-être proposée aussi dans le polyamour, évidemment, parce que quand on est dans des discussions où je vais me dire polyamoureux et en fin de compte je ne passe pas à l'acte, ça ne pose pas de problème généralement. Je dis oui, j'aime cette personne et puis celle-là aussi, puis c'est platonique, ah oui, c'est bien. Voilà, mais dès l'instant où l'enjeu c'est peut-être de trouver du plaisir dans une sensualité, dans s'autoriser en fait, hein, de se réapproprier les corps, et c'est peut-être à ce moment-là que ça peut déranger. Oui.
J'ai trois petites choses à dire. La première sur. Le choix, enfin cette espèce d'ado qui n'arriverait pas à choisir. Pour moi, la tromperie, elle commence dans le désir et pas forcément dans le passage à l'acte.
Donc,
si j'étais exclusive, je pense que je vivrais dans des affres insupportables, justement parce que l'autre a beau être physiquement présent, rien n'est moins sûr qu'il soit mentalement et affectivement présent. Et moi, je tiens beaucoup plus à ce que la personne soit affectivement et mentalement présente qu'à ce qu'elle soit physiquement présente. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être aussi ce que tu voulais décrire par qualité relationnelle. Je tiens pas à vivre avec un fantôme, et justement, enfin, ces couples d'adultes qui sont complètement morts l'un à l'autre, et qui se contentent d'être physiquement présents et éventuellement de rentrer en conflit pour s'assurer qu'il y a encore quelque chose. Moi, c'est vraiment un modèle qui me répugne et dans lequel j'ai pas du tout envie de m'inscrire. Je préfère moi aussi rester éternellement adolescente plutôt que de les rejoindre dans cette espèce de mort à l'autre et à soi-même. La confidence qu'un de mes amoureux m'avait fait, c'était que aussi, finalement, il avait augmenté ses exigences pour être séduit. C'est-à-dire que dans la mesure où toute autre femme n'était plus interdite par définition, finalement, il était beaucoup moins attiré. Et que finalement il fallait que la femme en face ait de solides arguments pour commencer à l'intéresser, que c'était plus cette espèce de de flirt désespéré avec la première caissière du coin qui a absolument pas demandé à être l'objet de quoi que ce soit et qui est prise dans son poste de travail.
Ça me parle pas mal ce que tu dis. Bon, ben, je te laisse continuer, hein. Je prends des notes.
La troisième chose que je voulais dire, c'est ça m'a été aussi apporté par mon vécu. J'ai eu deux expériences avec des hommes qui étaient en post-enfantement. C'est-à-dire que le bébé était né, pour un, il venait tout juste de naître, et pour l'autre, l'enfant avait 2 ans, et qui était clairement dans cette espèce de déshérence qui prend certains couples après la naissance de l'enfant, et qui statistiquement se traduit par une explosion de la fréquentation des prostituées. C'est-à-dire que les prostituées le disent, la majorité de nos clients ont un siège bébé à l'arrière. Et il y a quelque chose hein, sur la femme n'est plus femme, elle est trop mère, pas assez femme. Moi-même, je ne sais pas comment m'y prendre pour être à la fois le père et aussi cet homme qui désire cette femme pour qu'elle puisse rester femme, y compris dans sa propre perception. Et c'est aussi face à cette femme qui a priori ne me désire plus parce qu'elle est occupée à la maternité, est-ce que moi je suis encore séduisant? Et finalement ces hommes, c'est ce qu'ils sont venus chercher chez moi, de se voir encore séduisant chez quelqu'un, en capacité de séduire. Et là où ils sont tombés sur un hic, et en même temps ce qui leur a fait le plus grand bien, c'est qu'avec mon vécu féministe, bon, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une femme qui était là et qui ne savait pas ce qui se passait. Et je leur ai dit, moi, je suis plus solidaire de ta femme que de toi. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas compter sur moi pour mettre à mal ce couple qui va déjà pas très bien. Et je les ai renvoyés à ça, aux statistiques, à la fréquentation des prostituées, à la difficulté de dire le désir dans le couple. À ce qui... Et ces hommes m'ont quitté et j'en suis très fière. C'est là aussi au niveau de la qualité relationnelle, je suis beaucoup plus contente qu'ils soient repartis vers leur femme en ayant fait des accros plus ou moins importants à leur contrat de fidélité. Mais pour moi, c'était vraiment très clair que j'allais pas m'inscrire en rivalité avec elles et que c'est vraiment déloyal. De femme à femme, de faire ça. Et c'est aussi pour ça que en arrivant sur le site Polyamour, j'ai cherché où étaient les autres femmes et quelles femmes elles étaient, parce que je ne veux pas rentrer dans ces rapports de rivalité entre femmes autour d'un homme, de « moi je te fais mieux l'amour, moi je te fais mieux les petits plats ». Et puis le mec est là en train d'hésiter entre deux et de se demander non, je suis pas dans la rivalité avec mes sœurs. C'est vraiment, et c'est aussi par rapport à d'autres jeunes femmes, je supporte assez mal qu'on me compare à elles parce que j'ai une expérience, et puis on peut pas leur demander à elles d'être à ma hauteur puisqu'elles n'ont pas cette expérience. Quelque chose pour moi aussi, je veux pas rentrer dans cette compétition-là non plus, de l'expérience ou la jeunesse. Du coup, le polyamorie permet d'avoir les deux finalement. Et mon grand désespoir pour l'instant, c'est que les éventuels partenaires de mes amoureux ne souhaitent pas me rencontrer. Et quelque part, moi j'aimerais justement pouvoir les rencontrer, non que je nourrisse pas des sentiments de jalousie assez féroces, mais voilà, je veux pas que cet homme nous sépare. Je veux avoir un accès direct à elle et pas que ça passe. Parce que par contre, mes amoureux en général sont assez friands de petites informations sur les uns les autres, ce que l'un fait, ce que l'autre a proposé, où il en est. Donc je fais un peu radio, bulletin d'information. Par contre, bon, certains se connaissent, seraient capables peut-être de cohabiter dans la même pièce le temps d'une soirée, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'accès à moi, parce que bon, je peux comprendre que ce soit difficile de me voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais bon, le contact n'est pas du tout souhaité. Alors que moi, j'aimerais vraiment pouvoir les rencontrer. Et, on a quand même quelque chose en commun qui est vraiment important.
Oui, c'est bizarre parce que moi je serais vraiment, bah, justement, comme tu dis, dans l'effet inverse, de pas vouloir rencontrer des partenaires, de pas vouloir te voir avec eux, parce que bah, c'est pas quelque chose que. Enfin, c'est pas quelque chose que je souhaite, que j'ai. Qui, peut-être quelque chose qui fait un peu plus de mal, et donc, tant que ça reste une relation qui est sur le côté, dont je suis au courant, où il n'y a pas de problème, mais la voir et se la faire mettre face à soi, c'est quelque chose de totalement différent dans la perception, et donc.
Ouais. Moi j'en parle un peu dans les questions que nos amis journalistes de la RTBF m'avaient posées. À un moment donné, je sentais que c'était un peu l'enjeu, puisque je me confiais, que je disais que la personne qui était avec ma compagne, y avait eu de la rencontre, justement. J'avais pu avoir en face de moi un homme, et que j'en ai énormément appris, en fait, et que c'était une personne qui a pu accueillir ma présence. En même temps, c'est un cheminement d'une dizaine d'années avec Sophie. Mais donc, c'était tout d'un coup, tiens, il y a un homme qui dit que je ne suis pas méchant d'emblée, ou que je ne suis pas dangereux, ou que je ne suis pas menaçant.
Qui n'a pas l'intention de te casser la gueule.
Oui. Et ça, ça a été un cadeau qu'il m'a fait. Et par le jeu de la rencontre des corps, on a pu... se rencontrer. Donc moi, si tu veux, c'est par la sexualité que j'ai pu approcher un autre homme, même s'il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu. Mais résumer la sexualité à pénétration, enfin, c'est un peu énervant aussi. Hein. Bon, mais il faut le redire au micro. oser mettre sa main, voilà, sur le torse de quelqu'un, c'est ce que j'ai pu faire d'un autre homme. C'était quand même pas gagné. Je veux dire, moi, j'ai eu des larmes, quoi. J'ai eu des larmes.
Ouais.
Et je ne m'y attendais pas. Et donc, ça a été un vrai cadeau. Parce que à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai réglé assez définitivement l'idée de la douleur dans la jalousie. Quoi. Même si peut-être que d'autres relations me feront réapparaître un peu ce sentiment-là. Mais ça a été une découverte magique. Mais alors, tu te dis, mais c'est dingue, personne ne m'a dit ça avant. Ni dans l'éducation, ni dans quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai des très bons... contact avec mes enfants, je les vois tous les jours, c'est deux adolescents, on parle, je sais qu'eux sont dans ce genre de discussion entre eux, avec leurs amis, parce qu'ils sont dans une école assez ouverte et qu'ils ont un chouette petit réseau. J'ai l'impression d'être dans cette adolescence, hein, mais vraiment avec l'idée que dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on dit non, voilà, je deviens adulte, quoi. Moi j'ai eu très peur de ça quand j'allais avoir 18 ans.
Pour voir aussi ce qu'on appelle par devenir adulte, est-ce que c'est quoi? Ouais. C'est avoir une femme, des enfants, une maison, un travail et une vie bien, bien rangée, ou bien est-ce que bon, on peut rester même adulte avec des comportements d'adolescent? Donc il y a.
Oui, mais donc là, j'étais
définir adulte aussi.
Oui, mais j'étais dans l'idée que pour moi, hein, bon, mais dans justement être adulte avec une autre perception de ce dernier bastion du couple. Et que cette personne n'était pas menaçant, si tu veux, pour ma relation que j'avais avec Sophie, et que c'était plutôt un enrichissement. Donc moi, voilà, j'ai vécu des moments vraiment incroyables, de très riches. Donc je l'ai pas vécu vis-à-vis de d'autres personnes, parce que tu parlais un peu de l'idée de rencontre. Si je me mets un peu à ta place dans ce que tu disais, il n'y a pas eu vraiment de croisement où j'aurais pu rencontrer une autre femme. De cette personne. Enfin, tu vois, dans le polyamour, évidemment que c'est comme un grand puzzle qu'on agence un peu comme on veut. Mais j'ai l'impression qu'il y a un tas de richesses à découvrir, avec chaque fois aussi l'idée, comme dit François Saint-Père, être polyamoureux, c'est peut-être aussi n'avoir personne et être très bien.
Mm-hmm.
Et donc ça, j'y tiens aussi, parce que je sais que TF1 m'a envoyé un mail en disant « On cherche des candidats pour témoigner dans une nouvelle émission du matin, magazine à 10h ». Et que, comme mon ami Boaz, qui est en train de créer polyamour.info en France, qui est un ex-liégeois que j'ai rencontré sur un site canadien, quelqu'un très chouette, me disait aussi, ça risque d'être, je trompe ma femme et j'en suis fier, j'ai plein de mecs et je m'envoie en l'air, c'est cool. Et donc ça, c'est à la sauce commerciale.
Oui,
on risque d'être
de...
mangé, tout cru. Oui. Voilà, et donc, j'assiste aussi, et je trouve que François Saint-Père a bien réagi après sur son blog, en disant, ok, le polyamour est un peu à la mode ici, rue89.com. J'ai eu 1000 visites sur un jour sur mon site, je me dis, qu'est-ce qui se passe, il y a un bug. Mais en fait, non, j'étais référencé comme un site à aller voir, et donc il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, mais tout est à expliquer, j'ai l'impression. parce que être polyamoureux, il faut expliquer, vraiment, j'ai l'impression. Parce qu'on risque d'être dans « ouais, c'est cool, tout est permis, on est dans une sexualité ouverte et débridée », alors que c'est l'engagement qui est là, mais l'engagement aussi dans peut-être le contre-engagement, et dire « moi, pour le moment, je suis seul, je suis bien mais en fait, je crois vraiment à une espèce de recherche, de fonctionnement qui est à réinventer dans les imaginaires collectifs aussi, dans une certaine beauté de l'humanité, quoi, enfin.
Oui, mais il ne faut pas que ça devienne finalement simplement « je trompe ma femme et c'est très bien, et j'ai des multiples partenaires », mais...
Parce que dans les années...
Sans sentiment, voilà. Je veux dire, il y a quand même polyamorie, il y a quand même une question d'amour entre les différents partenaires qui est présente.
C'est ça. Mais aussi dans l'idée que les couples ouverts, François Saint-Père en parle aussi dans les années 70, mon conjoint a quelqu'un, moi j'ai personne, bon, il faut que je trouve quelqu'un, sinon je vais me sentir seul. C'était presque un peu obligé, je pense, dans le combat des années 70, un petit peu. Et qu'ici, j'ai l'impression qu'il faut avoir cette intelligence de pouvoir se dire « ok, c'est des ouvertures », mais c'est aussi un face-à-soi, comme tu le disais, dans parfois des moments où on sera assez seul, et où on sait peut-être l'autre heureux, mais est-ce que l'amour, c'est pas ça? C'est pas de se dire « c'est le bonheur de l'autre qui va me nourrir, et si je l'aime vraiment, je veux le voir heureux ». Enfin bon.
Et peut-être mieux parfois avoir une partenaire qui est heureuse mais avec quelqu'un d'autre, et qui sera heureuse en revenant les autres jours vers toi, que d'avoir une partenaire qui est malheureuse tout le temps. Et
finalement, c'est à préciser quand même que je n'ai pas toujours su accueillir le retour de Sophie à la maison. Ça a été un cheminement aussi. Il y a des moments où il y a un texte sur le ventre et le cerveau qui vient de Info Kiosque, l'amour contre l'amour, un beau texte, qui dit oui, qu'il y a vraiment une opposition entre « ok, j'intellectualise que c'est un beau projet, et en même temps, quand la personne n'est pas là, et qu'elle revient, comment je fais, quoi ? Parce que dans mon ventre, il y a une émotion. »
Mais il y a probablement une chose très différente entre le fait de vivre, comme toi, de vivre ensemble et de vivre séparément, d'avoir chacun son appartement, et d'avoir chacun son lieu à soi, et de se voir à l'un ou à l'autre. Tandis que là, c'est quand même différent d'être vraiment un logement ensemble. Mm-hmm. Je crois que tu peux en témoigner, t'as eu les deux, donc...
Toi, c'est quelque chose qui te convient un peu, ça ?
Et je préfère ne pas être, vraiment être chacun chez soi, et d'accueillir l'autre, qui est toujours bienvenu, hein. C'est pas le problème d'avoir un chez soi chez moi, mais d'avoir quand même chacun un lieu séparé, de ne pas croiser les autres partenaires de sa compagne quand on rentre chez soi, ce genre de choses. Donc, on peut les rencontrer, on peut discuter avec eux sans que ça pose effectivement de problème. C'est des gens parfois, je connais certains avec qui je peux discuter, c'est pas un problème du tout. Mais peut-être pas de les croiser quand ils sortent de la chambre ou ce genre de choses, quoi. C'est quelque chose de peut-être plus difficile à... Mm-hmm. On peut l'intellectualiser, comme tu dis, mais peut-être, effectivement, au niveau du ventre, plus dur à accepter.
ancien couple où donc on était obligé d'avoir un planning assez serré sur l'occupation de la chambre. Donc, est-ce que j'y suis avec toi ou est-ce que j'y suis avec quelqu'un d'autre et toi pendant ce temps-là où tu es? Et ça donnait des nœuds assez terribles parce que ben, si la rencontre de l'autre à l'extérieur tournait mal, ben, finalement, il avait quasiment plus de chez lui où rentrer et pas de chambre où dormir. Enfin, c'était assez complexe. Et effectivement, moi aujourd'hui, je vis beaucoup mieux de ne pas vivre avec une personne avec laquelle j'ai une relation. Et ça repose de nouveau la question des enfants, parce que normalement on est censé vivre avec au moins une personne qui t'aide à élever les enfants, et tu peux pas demander à tes colocataires de se lever avec toi la nuit.
Oui, donc là tu es vraiment dans l'expérimentation concrète au quotidien. Comment on fait aujourd'hui dans une ville où les loyers sont chers,
parce que
on
en
a
même
envie
temps...
d'une liberté, mais qu'en même temps il y a... Il y a le territoire qui est là.
Quand on essaye d'adopter un enfant ou d'être famille d'accueil, on a quand même une enquête sociale. Mmh. Et donc à moins de passer pour une espèce de pervers polymorphe qui va emmener le gamin dans des orgies sexuelles, ouais. C'est assez compliqué. Et puis avec un de mes anciens partenaires, on pensait à parrainer un enfant. Donc ouais. C'est quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. C'est un week-end sur deux, c'est la moitié des vacances. Et on se disait, est-ce que c'est possible pour la famille, pour cet enfant et pour l'institution, de lui dire, oui, on te prend effectivement... Enfin, un week-end sur deux, tu ne seras pas avec tes parents ou avec ta mère, mais il n'est pas dit que tu seras avec nous deux. Tu seras avec l'un ou l'autre, qui sera peut-être avec l'un ou l'autre, avec quelqu'un d'autre.
Alors que l'enjeu, il est en fait, évidemment, dans la qualité de la parentalité.
Donc, c'est nouveau.
Voilà, quelle disponibilité. Enfin bon, on a tous. Enfin, je vais pas. Non, c'est pas bien ce que je dis. On a tous vécu dans les familles. Enfin, je vais parler de moi, c'est quand même plus facile. voilà, j'ai eu des parents qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, avec des moments forts et des moments moins forts. Mais moi, je me souviens, en tant qu'adolescent, j'avais assez envie qu'ils soient plus ensemble, quoi. Et ils ont fini par divorcer. Et après, je trouvais que c'était plus intéressant. J'avais déjà 20 ans, mais. D'aller chez l'un chez l'autre. J'avais une belle richesse de relations que je n'avais pas eue peut-être pendant 10 ans, voire plus. Donc j'ai peut-être aussi puisé mes envies, mes pulsions polyamoureuses dans quelque chose à expérimenter parce qu'il y avait peut-être manque et qu'une présence, c'est tellement important. Être disponible. Alors moi, j'ai l'impression que c'est ça le vrai débat que la société devrait proposer. Au-delà des petites enquêtes à faire avec des petites croix dans les cases, est-ce que tu auras un papa, une maman, à quelle heure? Enfin oui, c'est bien, mais c'est tellement pauvre en fin de compte.
Oui, on en revient à la qualité de la présence. Est-ce que l'autre est physiquement là, ou est-ce que l'autre est là et investi dans sa présence avec voilà. toi?
Et peut-être parfois, dans ce que tu as avec une maison et plusieurs personnes, aussi une présence de plus de monde. Il y a le père, la mère, mais peut-être aussi d'autres partenaires masculins, féminins. Donc c'est peut-être plus enrichissant pour l'enfant aussi d'avoir... un contact avec plus de monde et plus de perspectives. Mais non, il faut le gérer aussi au quotidien pour l'enfant. C'est peut-être pas non plus toujours évident, hein, mais on peut se dire qu'en théorie, effectivement, d'avoir plus de contacts, ça peut amener plus de choses à l'enfant. C'est à voir en pratique. Hein.
Il paraît que les vacances des familles recomposées sont... un casse-tête épouvantable, puisqu'il y a certains demi-frères et sœurs qui demandent à être ensemble, mais les parents ont des projets différents pour l'un et pour l'autre. Et...
C'est ça. Et sur le site canadien Yahoo Group, Polyamour, comment c'est ? Yahoo Group Québec, il y a vraiment des discussions qui portent déjà là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'au Canada, il y a le polyamour qui s'installe, qui est peut-être un peu plus ancien. Et en tout cas, les gens sont déjà en train de se demander comment on fait avec les enfants, au niveau de la législation, dans les familles qui ont envie de se rapprocher, dans un polyamour croisé comme ça des familles.
Mais pour faire son coming out dans sa famille, enfin, je ne l'ai pas dit à mes nièces qui ont 4 et 8 ans. En même temps, du coup, elles me voient systématiquement seule. Y a un hypothétique prénom masculin de quelqu'un qu'elles ont vu... il y a des années qui traînent, et c'est pas très honnête en même temps, mais
ça permet peut-être d'éviter aussi trop de questions des parents, trop de... c'est aussi ta liberté peut-être, de leurs parents, mais... de ces enfants-là ou...
En fait, c'est les... ma famille est au courant.
Ah, d'accord.
Mais c'est vrai que par rapport aux enfants, je ne suis pas non plus... Puis, enfin... Il y en a une qui a 8 ans, qui est déjà très fine, qui va me dire « Pourquoi tu vis comme ça ?» Donc, je vais me retrouver plus ou moins à débiner le couple de ses parents. Ouais. C'est un peu gênant.
C'est ça.
Merci.
Moi, j'en ai parlé à ma fille de 16 ans, maintenant elle a 17. Et elle a fait un petit travail au cours de morale sur le polyamour. Elle a eu presque 10 sur 10, je crois. 9,5. Ça a passionné tout le monde dans la classe, ouais. Et même le prof. Et je pense qu'à cette époque-là, on était dans un bel équilibre dans le polyamour que je pouvais vivre aussi avec Sophie, plus une personne que j'avais rencontrée. Et puis c'est vrai que j'ai vu mes enfants un peu se stresser quand ça allait moins bien. Et qu'ils se sont dit, tiens, mais ça a quand même l'air de faire un peu souffrir, et que ce n'est pas la formule magique qui était un peu apparente. Et là, ben, aujourd'hui, c'est le message que j'ai vis-à-vis de mes enfants, et ils l'ont compris. De dire, voilà, c'est une formule comme une autre, ça a ses avantages, ça n'apporte pas toutes les réponses, mais c'est quand même une belle aventure. En tout cas, moi, je m'inscris toujours dans cette perspective, et je pense que, voilà, c'était un peu mon vécu par rapport à ça. Ouais. Et que oser en parler aux enfants, maintenant c'est mes enfants, ils sont dans un réseau, eux aussi, de croisement, de tolérance dans leur milieu, ils ont des potes qui osent vivre des homosexualités, où il y a vraiment l'acceptation dans leur réseau, ils sont dans la musique, dans l'expression. Donc c'est assez peut-être privilégié aussi. Mais est-ce que la jeunesse n'est pas en train aussi de... s'autoriser d'autres petits modèles et d'autres petites audaces, il me semble, mais bon, je n'ai pas toutes les réponses.
Ça progresse de génération en génération, hein. De toute façon,
c'est ça.
Il y a quand même une évolution. Nos grands-parents ne l'auraient peut-être probablement pas fait. On le fait maintenant, donc peut-être que nos petits-enfants seront tous polyamoris. Enfin,
y a, ouais. C'est ce que je disais à mon papa qui a été très actif dans le milieu naturiste dans les années 70, et donc je lui ai dit dernièrement, bah, tu vois. Ce que je mets un peu en avant dans mon combat aujourd'hui, c'est peut-être un peu la suite de ce que toi t'avais amené. Dans les 70-80, se mettre tout nu dans la nature, c'était un peu audacieux. Surtout que lui, il était un peu, il osait le dire dans les médias. Donc, je vivais dans un village où j'étais le fils de l'homme qui court tout nu dans les bois. Et puis voilà, bon, moi ça m'a permis, mais j'avais 7 ans, donc. Mais j'ai vu des milliers de gens tout nus. Ça m'a fait du bien. Dans ma sexualité, dans... pour désexualiser le corps, pour être dans une nature, aussi dans un plaisir. Bon, à l'adolescence, c'était peut-être un peu moins évident, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, c'est une continuité, quelque part. Et alors, j'ai senti qu'il a compris un peu ce que je voulais dire.
Peut-être un avantage d'être en ville, c'est qu'il y a quand même un certain anonymat dans la ville, ouais, qui permet de peut-être vivre le polyamorie plus facilement que dans un village, on est le fils de l'homme tout nu, ou on est le fils de l'homme polyamorie. C'est peut-être moins facile à vivre quand on les vit hors des villes.
Oui,
ça va peut-être venir, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça va peut-être venir plus des villes vers la campagne, ce genre de mouvement.
Tout comme par exemple La Poste, quand tu étais homosexuel, La Poste te mettait plus facilement en ville qu'à la campagne, en tant que facteur homosexuel. Parce qu'ils avaient compris que voilà, c'était peut-être un peu plus aidant, ça aidait peut-être un peu plus. C'était une sorte de priorité pour être dans le milieu urbain, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, les villes ont peut-être cet anonymat un peu dont tu parles. Ouais. Ouais. Même si Bruxelles est un gros village. Hein.
Oui, enfin, il y a quand même 1 million d'habitants. Mmh. On ne connaît pas tout le monde. On n'est pas catalogué, je veux dire. On ne connaît pas spécialement ses voisins. Ils ne sont pas dans le réseau de connaissances. Dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde parle.
Mais ça veut dire qu'en même temps, un jour ou l'autre, est-ce que... être sur une certaine place publique, est-ce que, par exemple, dans le mouvement homosexuel, il y a des gens qui ont dit « il faut absolument dire », d'autres qui ont dit « non, nous, on veut vivre un peu ça en étant dans notre sphère ». Et moi, j'ai l'impression que les deux sont bons, en fait.
Ouais, c'est chacun fait comme il lui plaît, comme ça lui semble le mieux. Fin...
On voit défiler aujourd'hui des polyamoureux aux États-Unis avec des grandes banderoles dans la rue. Peut-être que ça peut faire avancer. Et puis, en même temps, vivre dans une certaine... semi-transparent, c'est bien aussi. Par exemple, moi, au boulot ici, il y a peu de gens qui le sachent, qui le savent.
Mais forcément, enfin, je pense que le mouvement sexuel a pris beaucoup du fait que les gens se sont montrés, qu'il y a eu des gay pride et qu'on a pu vraiment en parler, parce qu'ils seraient restés cachés, encore maintenant, depuis 100 ans, ça aurait pas été... il n'y aurait pas eu la progression qu'il y a dans les mentalités actuelles, donc effectivement, il faut en parler, mais maintenant, si les gens veulent ne pas le dire, c'est une liberté de chacun.
Il y a la question du stigmate aussi, parce que... Tu peux arriver à voir que quelqu'un est homosexuel, c'est vraiment compliqué d'arriver à voir que quelqu'un est polyamoré. Il n'y a pas le fameux gaydar, il n'y a pas de polyamoridar pour déterminer que l'autre est... Donc, quelque part, c'est aussi plus facile pour nous de vivre caché, puisqu'a priori, on peut assez facilement présenter une norme à la face du monde. C'est vrai que moi, régulièrement, je me pose maintenant la question en termes de coming out. Qu'est-ce que je fais mon coming out de polyamorie auprès de telle ou telle personne. C'est vrai que je l'ai fait beaucoup plus facilement dans le cercle de mes amis ou des amis de mes amis, de façon à éviter leur embarras, de se dire « Tiens, mais la dernière fois, je l'ai vu avec tel autre, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là, c'est de nouveau un troisième. Donc, genre, soit passer pour une nymphomane ou passer pour quelqu'un qui trompe l'autre vraiment sans scrupule. Je souhaite pas passer pour une salope, donc voilà, je préfère encore passer pour une polyamorie, ce que je suis, et ça me pose moins de problèmes. C'est vrai qu'au travail, c'est déjà moins évident. Et puis, il y a l'amalgame que j'évoquais tout à l'heure sur l'homosexualité. C'est pas parce que je suis capable d'avoir des relations avec plusieurs personnes que je veux avoir des relations avec tout le monde. Et ça, souvent aussi, sur les femmes qui ont une sexualité trop libre, le stigmate de salope est jamais très loin. Donc, je cherche quand même à me protéger. Pour moi, se faire brûler les ailes, ça n'a jamais été du militantisme. Donc, voilà, effectivement, j'ai une visibilité à géométrie variable.
Oui, je comprends.
Pareil.
Au niveau de mes parents, ma mère un jour m'a dit « Mais tu as rempli le contrat. » C'est-à-dire que t'as pas été une ado trop chiante, t'as fait ta scolarité, t'as un travail, t'es pas au chômage. Je peux rien te dire. Et en plus, il y a 900 km à une frontière entre nous. Je sais pas...
Donc, c'est voilà. Une façon de dire qu'elle t'acceptait quelque part, sans le dire.
Oui, oui. Ouais. Bon, alors du coup, régulièrement, ils rencontrent l'un ou l'autre, donc ça se passe plus ou moins bien. Donc là aussi, ils sont dans la liberté d'adhérer, de quelque chose qui se passe ou pas. Après, ma mère a beaucoup de mal à pas être dans... Et alors, quand est-ce que j'ai des petits-enfants? Parce que bon, ça sent vieillir, elle en a... C'est l'éternelle pression qu'on se refile de génération en génération.
C'est ça. Ouais. Bon, ben, très riche, hein. Vraiment très riche. Un petit mot de la fin, comme ça. Enfin, je propose, hein, je sais pas.
J'ai assisté à une conférence c'était sur les cohérences cycliques de l'histoire, donc a priori ça n'avait pas grand chose à voir avec le couple, et à un moment donné, quand même, le conférencier a dit on s'achemine vers un système de pensée où aimer l'autre c'est le rendre libre.
Il le sent un peu venir. Mais je pense que c'est questionnant, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Mais que tout se tient, donc quand on est dans l'idée de la monogamie, monothéisme, monopensée. Monopensée occidentale, hein, capitaliste, avec l'idée du patronat. Moi, j'ai l'impression que si on est dans l'idée du polyamour, on peut aussi doucement questionner la structure autour, quoi. Et que ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais ça a beaucoup de sens, et que je pense que donc il y a une vraie pression de la part de la société à nous ancrer dans des frustrations, puisqu'on sait qu'un homme ou une femme qui sera assez malheureux, plus ou moins malheureux, peut-être parfois heureux, et ça c'est chouette pour ceux qui y arrivent, mais je pense qu'il y a beaucoup de chances que humainement, la condition humaine dans une certaine nature fait que le désir s'étiole doucement, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller peut-être plus consommer ceci, cela, on va être des gens un peu plus malléables, et qui, j'ai l'impression, que d'être dans des ouvertures intelligentes d'amour pluriel, c'est peut-être être de manière assez pertinente tout le temps en questionnement, et que ça intéresse moins nos hommes politiques, par exemple. Mais bon.
C'est-à-dire que peut-être le polyamorisme, c'est une façon aussi de ne pas tromper son partenaire, de pouvoir vivre complètement d'autres relations, et de pas, soit de ne pas être frustré, de ne pas pouvoir le faire, soit de ne pas être dans la tromperie et dans le mensonge. Donc,
c'est ça.
C'est une façon aussi de rester honnête, et de, bah, de peut-être aussi que l'amour s'étiole pas au fur et à mesure, en cherchant à le conserver, quitte à aller voir ailleurs.
Je rajoute une petite touche philosophique sur le... je trouve que ça renvoie au mythe de la caverne. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a été habitué à être enchaîné, assis dans le noir et à regarder sur le fond d'une caverne l'image déformée d'objets passant devant le feu, quand tout d'un coup on est, entre guillemets, dans la grande clarté de la relation à soi, dans toute sa crudité, la relation à l'autre, debout dans le soleil, effectivement, ça fait très mal, et on peut effectivement imaginer que les gens n'ont pas forcément envie. Et ça me renvoie aussi au désespoir, selon Kierkegaard, c'est privé de Dieu, l'homme et la femme est seul responsable du sens qu'il donne à sa vie. Mmh. Et finalement, c'est ça aussi, c'est-à-dire que si... je me sors du chemin tracé du couple, du mariage, de la maison, du chien, des enfants, bah quel sens a ma vie? Et ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout prêts à l'affronter.
C'est-à-dire que la monogamie amène les réponses toutes faites, comme dans un grand mode d'emploi, et que c'est clairement donc, ce que je comprends, oui. Mais je partage vraiment l'idée aussi. Oui. Pour réinventer, prendre le risque de ne pas avoir toujours les réponses. Mais que les petites réponses qu'on peut avoir sont à consommer sans modération. Parce qu'il y a des petites victoires. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu des moments d'extase et ça reste un souvenir magnifique, vraiment.
Mais il y a des petits plaisirs. Enfin, je peux me permettre. Enfin, tu disais qu'il a un ami, quand sa copine est là, il sort pas au bistrot avec ses potes. Mmh. Et Alexandre disait, ben moi au moins, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et puis, ben toi, tu peux trouver autre chose à faire, mais une forme de dépendance.
Ça, je partage aussi dès l'instant où tu vas permettre à l'autre, jusqu'à une sexualité autonomie, dans une autonomie, forcément que le reste devient en second plan, accessoire, et que... je crois, oui, je comprends tout à fait.
Il y a pas le côté qu'est-ce que t'as fait hier soir, avec qui t'étais. On peut poser la question, mais c'est pas avec une agressivité.
C'est pas dans le contrôle.
C'est pas avec suspicion.
C'est pas dans le contrôle. Je veux dire, d'ailleurs, on en parle généralement quand il y a d'autres relations. Il vaut mieux en le savoir. Enfin, moi, je préfère en tout cas le savoir. Mais c'est pas avec la suspicion et le côté ok, qu'est-ce que t'as fait hier soir, je veux savoir, tu m'as trompé.
Voilà, j'ai l'impression qu'être hors de l'exclusivité, c'est en fin de compte une clé de voûte qui déverrouille un tas de permissivités secondaires, mais qui parfois posent aussi des problèmes dans les couples. Et là, en effet, moi, j'ai vécu ça aussi, ça résout un tas de petites questions, de suspicion, de malaise. Et on ose beaucoup plus être soi dans tout le reste aussi, j'ai l'impression.
Aussi dans la rivalité entre femmes, c'est-à-dire que moi, a priori, je ne suis pas dans la haine immédiate et complète d'une femme avec qui il aurait pu échanger des œillades... quand il est allé boire un coup avec ses copains ou même tout seul au cinéma ou que sais-je, parce qu'elle a cherché à me prendre mon mec et quand même je collais une alliance ou quoi pour signaler que cet homme-là n'est pas disponible, il n'est pas à lui-même mais à moi. Enfin, on en revient pour moi dans cette rivalité-là aussi.
François Saint-Père, puisqu'on est dans la poésie, propose le terme lutin et lutine. Vous êtes au courant?
Moi non. elle me l'expliquera.
C'était sur le... Oui. Sur l'un des sites que j'ai envoyé.
Ben, l'idée, c'est quoi? C'est peut-être de se réapproprier un vocabulaire, puisque tu disais mon homme, hein, c'est des choses qu'on entend. Nous aussi, moi aussi, j'ai parfois encore des réflexes un peu comme ça. Mon gendre, mon homme, ma fille, ma voiture, oui. Mais voilà, comment est-ce qu'on va être créatif dans le vocabulaire pour un petit peu se situer quoi, dans un respect plus juste? Lutin, c'est pas mal. Hein.
Lutin, c'est très bon.
Lutine. Lutin.
On reste adolescent. Un enfant, là.
Eh ben, un grand merci.
Merci à toi.
Voilà. peut-être d'autres émissions plus tard, sûrement. Enfin, moi, je reste très motivé. Toi, tu as aussi fait de la radio, Clémentine ?
Moi, pas du tout.
Toi, pas du tout. Voilà. Mais disons que dans la voix, on est d'accord que il y a énormément de choses qui passent. Mm-hmm. Hein, et que ça appelle l'imaginaire par rapport à l'idée que...
Ça incarne.
Oui. En vidéo, tout est à consommer dans l'image quand tu regardes un film. Même s'il y a le hors-cadre et le hors-champ aussi. Mais je pense qu'en radio... ça appelle des images et de l'imaginaire qui permet peut-être d'avoir une petite dimension de recul et de jubilation, en tout cas pour moi. Allez, bisous à tous, hein.
Et toutes.
Merci à tous les deux pour ce beau moment de trialogue. J'espère que ce fut le cas pour vous aussi, chers auditeurs d'un soir. Cette entrevue était illustrée par les créations musicales Kietman de Sol Carlus, Katango du groupe Catapulse, La caverne de Tom Lamèche, Défenestration sonore de Sol Carlus. Des cendres de Tom Lamèche pour le générique début et fin. Toutes les musiques ainsi que cette émission autoproduite sont sous licence Creative Commons, disponibles sur docmazic.net. Je vous retrouve quant à moi le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies. Bien à vous et bonne nuit. Thank you.